France Musique.
Bon anniversaire, Happy Birthday Herbie Hancock, par Thierry Paul Bénizot.
Une émission en partenariat avec Libération.
Après avoir connu quelques mois de vache maigre au début de son installation à New York, Herbie Hancock, désormais intégré à l'écurie Blue Note, travaille régulièrement. Et surtout, il est très demandé sur de nombreux albums produits par Alfred Lion, auxquels il apporte souvent sa contribution en tant que compositeur. C'est d'ailleurs Donald Byrd, encore lui, qui l'aide à créer sa propre publishing company, ses éditions musicales, ce qui s'avérera très important pour la suite de sa carrière. Entre 1962 et 1969, Herbie Hancock va enregistrer comme ça une trentaine d'albums en tant que sideman avec des gens comme Freddie Hubbard, Donald Byrd, Wayne Shorter, Lee Morgan, Bobby Hutcherson, Jackie McLean. La liste serait trop longue. Et puis surtout, il va signer 7 albums cultes pour la marque bleue, dont le premier s'intitule Taking Off, en français décollage, un titre prémonitoire. Chapitre 2, des années Blue Note à Miles Davis, l'émancipation. Three Bags Full, qui était une composition de Herbie Hancock. Taking Off, le premier album d'Herbie Hancock, naît sur un coup de bluff. Au printemps 1962, Herbie approche Alfred Lion, il souhaite enregistrer son propre disque, et sur les conseils de Donald Byrd, il raconte au producteur qu'il va bientôt être drafted, c'est-à-dire appelé sous les drapeaux. Nous sommes dans cette période incertaine qui précède l'engagement US dans la guerre du Vietnam, et le service militaire par tirage au sort a été instauré. Herbie explique donc à Alfred qu'il doit absolument enregistrer avant de partir. Pour le convaincre, il lui joue au piano quelques compositions originales qu'il entend inclure dans son album. Il faut préciser qu'à cette époque, pour un premier disque, chez Blue Note comme chez d'autres labels, les producteurs vous laissaient enregistrer une face avec vos propres compositions, mais pour faire vendre le disque, il devait aussi figurer des standards que les gens connaissent. Herbie précise donc à Alfred Lion qu'il reviendra le lendemain avec un blues et un standard. Mais à sa grande surprise, Alfred lui demande « Peux-tu plutôt m'écrire 3 morceaux originaux ?» Et voilà comment, pour son premier album, Herbie Hancock se voit confier l'intégralité des compositions. Une première pour Blue Note et une preuve éclatante de l'incroyable intuition d'Alfred Lion et de son génie artistique. C'est d'ailleurs lui qui choisira les musiciens Freddie Hubbard à la trompette, Dexter Gordon au saxophone ténor, Butch Warren à la basse et Billy Higgins à la batterie. Et voici l'histoire de Watermelon Man, telle que Herbie Hancock la raconte dans son autobiographie. Je voulais écrire un thème qui traduise de façon authentique mon expérience d'homme noir, mais sans référence à la prison ou au camp de travail du sud rural. Je suis noir, certes, mais je suis du nord, un gars de la ville. Je me suis souvenu que dans les années 40, dans mon quartier du South Side, à Chicago, un marchand de pastèques passait régulièrement avec sa carriole. Et je me rappelle précisément le bruit des roues sur les pavés des ruelles, ces clic-tic-clac, tic-tic-clac que j'avais entendu des centaines de fois. Voilà qui pouvait constituer un motif rythmique pour ma composition. Mais il me fallait maintenant trouver une mélodie qui vienne en contrepoint. Et là, je me suis souvenu des femmes qui allaient le marchand de pastèques en criant « Hey, hey, what mellow man !» En harmonisant, j'ai trouvé ma mélodie sur laquelle j'ai écrit un arrangement funky reproduisant la formule rythmique des roues cahotant sur les pavés. Et j'ai appelé ce thème « What a mellow man !» Voilà comment j'ai créé quelque chose à partir d'un souvenir d'enfance, un morceau de mon héritage culturel.
Thank you.
Watermelon Man, plein de groove, de feeling, avec Freddie Hubbard à la trompette, Dexter Gordon au saxophone ténor, Herbie bien sûr au piano, Butch Warren à la basse, Billy Higgins à la batterie, et ce fut enregistré en 1962, le 28 mai pour être précis, à Englewood Cliffs, dans le New Jersey. Et bien sûr, je ne résiste pas au plaisir de vous proposer l'autre version, afro-cubaine celle-là, de Mongo Santa Maria, enregistrée en 1963 et qui a véritablement propulsé ce morceau devenu un standard, repris et adapté plusieurs dizaines de fois. Et ce n'est pas l'ami Laurent Valero qui me contredira. À ce jour, on aurait répertorié 148 versions, à vérifier bien entendu. Pour l'anecdote, les droits d'auteur de ce tube ont permis à Herbie Hancock de s'offrir une superbe AC Cobra qu'il possède toujours. Taking Off est donc le premier des sept albums que Herbie Hancock va enregistrer sous son nom pour Blue Note. Alors, je ne vais pas explorer chacun de ceux-ci, ni même lister tous ceux auxquels Herbie a participé en tant que sideman lors de ses années Blue Note, il y a plus de 50 ans. Il faudrait plusieurs émissions pour cela. Et puis, il ne s'agit pas non plus de rivaliser avec le florilège proposé par mes excellents confrères de Jazz Magazine dans le passionnant dossier qu'ils ont consacré au pianiste dans le numéro de juin de la revue et auquel vous pouvez toujours vous référer. Je me suis donc permis de vous proposer un best-of personnel, une sélection de titres et d'extraits d'albums démontrant l'inventivité d'écriture, le sens de la mélodie et le talent indiscutable d'arrangeur de Herbie Hancock.
Thank you.
King Cobra, un thème de Herbie Hancock, extrait de son album My Point of View, avec Donald Byrd à la trompette, Gresham Monker III au trombone, Hank Mobley au saxophone ténor, Chuck Israel à la basse, Tony Williams, merveilleux Tony Williams à la batterie. Ça a été enregistré le 19 mars 1963 au Van Gelder Studio à Englewood Cliffs dans le New Jersey. My Point of View, justement un titre emblématique pour ce second album Blue Note dont Hancock signe à nouveau toutes les compositions. Avant les sextettes des années 70 et 80 et l'électronique, c'est un avant-goût des combinaisons instrumentales que le pianiste va expérimenter tout au long de sa carrière pour exprimer au mieux son discours musical. On trouve ici les éléments harmoniques et rythmiques, ainsi que les influences diverses qui irriguent l'œuvre du pianiste. My Point of View est à ce titre une déclaration d'intention, au sens littéral du terme, un manifeste si vous voulez, celui d'un artiste qui veut imprimer sa marque. Faisons un pas de côté, puisque nous musardons, pour évoquer l'autre fondateur du label Blue Note, Francis Wolff. Cet ami d'enfance d'Alfred Lion est un vrai fan de jazz et un photographe super talentueux. Ses clichés en noir et blanc sont les témoignages essentiels des sessions d'enregistrement du label et autant d'éléments indissociables de la musique des disques Blue Note. J'ai personnellement cassé ma tirelire pour acquérir quelques tirages. Mais laissons la parole à Herbie. Lors des séances Taking Off, j'ai découvert un détail intéressant sur Francis Wolff. Pendant l'enregistrement d'une prise, vous ne regardez pas ce qui se passe à la console. C'est ensuite, à l'écoute du playback, dans la cabine technique, que vous voyez ce que tout le monde en pense. Chez Blue Note, il me suffisait d'observer Francis. S'il se balançait légèrement en rythme en écoutant la prise, c'était dans la boîte. Sinon, c'était retour au studio pour recommencer. Et son instinct ne le trompait jamais.
Thank you.
Empire and Isles, enregistré 2 ans après Taking Off, marque une sorte de retour au hard bop. Encore que Hancock, cette fois-ci, en quartet, secondé par un trio d'aventuriers constitué de Freddie Hubbard, Ron Carter et Anthony Williams, recule encore les limites du genre, trouvant avec élégance cet équilibre entre le bop, le groove churchy et le jazz postmodal expérimental. Alors si Oli Locu Valley, qu'on écoute en ce moment, sacrifie aux conventions du hard pop, les autres compositions explorent de nouveaux territoires sonores et même Cantaloupe Island qui va suivre, encore un tube, avec ses riffs de piano funky, ne suit pas exactement les chemins du groove. C'est un album phare de la discographie hancockienne, pardonnez le néologisme, qui est représentatif de ce jazz des années 60 que je vénère. We'll be right back. Cantaloupe Island, un thème de Herbie Hancock qui sera repris de nombreuses fois et qui est un favori de Herbie d'ailleurs, en concert, avec Freddie Hubbard à la trompette, Herbie Hancock au piano bien sûr, Ron Carter à la basse et Anthony Williams à la batterie. Ça a été enregistré le 17 juin 1964, toujours chez Monsieur Rudy Van Gelder à Englewood Cliffs dans New Jersey. Catalogue, Inventions and Dimensions occupe une place à part dans la production de Hancock. C'est un album oublié qu'on a pu redécouvrir grâce au producteur Michael Kuskena dans les années 80. Et c'est une sorte d'ovni de conception instrumentale minimaliste, piano, percussion, avec bien sûr la base de Paul Chambers. Il est basé essentiellement sur le rythme, c'est un disque, disons, expérimental, réalisé tout de même par un maître de 23 ans. Alors à propos de Succotash, un des morceaux de l'album que nous écoutons en ce moment, j'emprunte à Philippe Carle de Jazz Magazine cette remarque. L'impression assez exaltante que cette pièce se crée en direct devant nous. 57 ans après, Succotash n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction instantané. On est bien d'accord. Herbie Hancock décrit avec tendresse les deux producteurs de Blue Note, Alfred Lion et Francis Wolff, ces deux immigrés juifs allemands que j'avais moi-même évoqués il y a quelques années sur cette même chaîne. De vrais fans de jazz qui sont devenus ces producteurs géniaux. Ils ont contribué à façonner la légende du jazz. Je voudrais maintenant évoquer un autre personnage important du label Blue Note, l'ingénieur du son Rudy Van Gelder. Le son Blue Note, c'est lui. À son propos, voici ce que raconte Herbie Hancock. Rudy était connu pour être super méticuleux avec son matériel. Il mettait des gants blancs quand il manipulait les machines dans le studio et les musiciens savaient qu'ils devaient eux-mêmes ne rien toucher. S'il fallait déplacer quelque chose, un câble, un pied de micro par exemple, il valait mieux lui demander d'abord. Sinon, il arrêtait la séance et sortait de la cabine en maugréant. Rudy était plutôt frêle, mais il pouvait vous foutre la trouille. Il pouvait vous tuer si vous touchiez à quoi que ce soit. À force de travailler avec lui, j'étais devenu comme de la famille. Des années après ma première séance, un jour, dans le studio où je me trouvais, je voulais changer mes écouteurs de place. « Rudy, j'ai besoin de bouger mes écouteurs, il y a un jack juste à côté de moi. » Et il me répond « Ok, vas-y, branche-les. » Alors là, j'ai vu le regard ébahi des autres musiciens présents. J'étais sidéré. Je me suis tourné vers la cabine et j'ai vu Rudy qui me souriait. La gloire, quoi. We'll be right back. Eric Dolphy, une légende du jazz, saxophoniste, clarinettiste, flûtiste, polyinstrumentiste. Il est parti bien trop tôt en 1964. Il exerçait une grande influence sur de nombreux musiciens et bien entendu sur Herbie Hancock qui a travaillé avec lui et dont l'écriture a elle aussi subi l'influence de Dolphy, notamment en termes de liberté. Je cite Herbie. Eric était un leader de ce mouvement d'avant-garde relativement nouveau dans le jazz. Il avait sorti 4 disques en 1960 et 1961 et il se produisait un peu partout à New York. Je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait. C'était tellement différent de ce que nous jouions à l'époque. Plus relax, plus libre, moins structuré. Eric m'avait invité en tournée à l'automne 1962 et au début je ne savais pas trop quoi faire. Je lui ai demandé « Tu as de la musique écrite je suppose, ou bien on improvise tout de suite ?» Eric me répond en rigolant « Bien sûr, nous avons des compositions, avec même des changements d'accords. » Ce qui m'a étonné parce que ça ne sonnait pas du tout comme ça. Alors je me suis dit « Bon, peut-être qu'en brisant certaines règles habituelles, ça peut mener quelque part, ailleurs. » Les semaines que j'ai passées avec Eric ont été cruciales pour moi. Ce que j'ai appris avec lui a non seulement influencé mon jeu avec Miles, mais aussi plus tard, la formation et l'évolution de mon sextet Mandishi. Thank you. Nous sommes au printemps 1963 et la rumeur court que Miles, qui vient de dissoudre son dernier quintet, veut engager Herbie Hancock dans sa nouvelle formation. Une fois encore, c'est Don Albert qui joue les entremetteurs. Il va présenter Herbie à Miles une après-midi. Herbie se souvient. J'avais rencontré Miles Davis un an auparavant. Miles était mon dieu. Je connaissais sa musique par cœur. J'avais tous ses disques. Et puis, il représentait tout ce que je voulais être dans le jazz. Mais j'avais encore du chemin à parcourir. Rencontrer Miles, c'était à la fois excitant et intimidant. Au bout de 5 minutes, il me montre un piano droit et me dit « Play something ». J'étais super nerveux et le seul morceau qui me vint à l'esprit fut « Stella by Starlight ». Alors j'ai bien dû le jouer car lorsque j'eus fini, Miles dit simplement « Nice touch, beau toucher ». De tout l'après-midi, la seule chose dont je me souvienne, c'est ça « Nice touch ». Miles ne va pas attendre très longtemps pour appeler Herbie.
« You working with anybody right now ?»«
Tu bosses avec quelqu'un ces jours-ci ?» La réponse de Herbie lui avait été soufflée par Donald Byrd. « Non, pas en ce moment. »«
Good. Come to my house tomorrow at 1:30. »«
Passe chez moi demain à 13h30. »« Ok, Miles. Mais clic !» Il avait déjà raccroché. Le lendemain après-midi, Herbie se rend chez Miles sur West 77th Street et c'est Miles qui ouvre et qui le conduit au sous-sol où il retrouve le bassiste Ron Carter, le saxophoniste George Coleman et le batteur Tony Williams qu'il connaît depuis quelque temps. Ils ont travaillé ensemble dans le groupe de Jackie McLean et sont devenus amis. À son propos, Herbie précise qu'il était plus qu'impressionné par la technique phénoménale de ce jeune prodige. Voici comment il décrit la répétition. Alors on a discuté quelques minutes jusqu'à ce que Miles nous donne un thème, compte, et on démarre. Après avoir joué quelques mesures, il jette sa trompette sur le sofa et disparaît à l'étage. C'est Ron Carter qui prend en charge la répétition. Nous jouons tout l'après-midi jusqu'au soir. Miles passe de temps en temps, souffle quelques notes, balance à nouveau sa trompette sur le sofa et remonte dans ses appartements. En fait, je ne l'ai appris que plus tard, il nous écoutait de là-haut par l'interphone. Les musiciens répètent sans Miles pendant 3 jours, apprennent à se connaître, et puis Miles revient et il joue 2 morceaux jusqu'au bout. Puis il s'arrête.
« Ok, that's it. Come to the 30th Street Studio on Tuesday. »
C'est bon, rendez-vous mardi au studio de la 30e rue. Herbie lui demande avant de partir « Miles, I'm in the band ? Je suis engagé ?» Miles le toise, esquisse un sourire.
You're making a record, motherfucker!
Et il disparaît. Ce sera le début d'une aventure qui durera 6 ans.
Quintet de Miles Davis avec le jeune Tony Williams à la batterie. Il a 17 ans. Avec Ron Carter à la contrebasse. Ron Carter. Avec Herbie Hancock au piano. George Coleman au saxophone ténor. Et Miles Davis.
Et oui, vous avez reconnu la voix de notre cher André Francis. Nous sommes à Antibes en 1963. Miles est ravi de présenter son nouveau quintet au public français. La veille, ils ont joué à Paris devant un public totalement conquis. Quant à Herbie, il est excité de découvrir un nouveau monde, l'Europe, la France. Comme son mentor quelques années auparavant, il va lui aussi ressentir cette différence avec l'Amérique, sentir que la couleur de sa peau importe peu. Musicalement, il est impatient de montrer à Miles ce qu'il sait faire, et il en fait trop. Quand Miles jouait, je remplissais l'espace derrière lui avec plein d'accords. À plusieurs reprises, il s'approchait du piano et faisait le geste de me couper les mains. Au début, je pensais qu'il plaisantait, mais le problème était plus sérieux et je ne savais pas quoi faire. Miles ne dit jamais rien. Un soir, après un concert, je décide de lui demander « Miles, parfois je ne sais pas quoi jouer. » « Eh bien, ne joue rien, me dit-il, sans même lever les yeux. » We'll be right back. Le saxophoniste George Coleman a quitté le quintet. C'est Sam Rivers qui lui a succédé. Après une tournée au Japon, c'est Wayne Shorter qui prend sa place fin 1964. Et très vite, le quintet trouve sa cohésion. Wayne, nous dit Herbie, nous a apporté sa puissance artistique, non seulement en tant que saxophoniste exceptionnel, mais aussi comme compositeur. Son écriture était idéale pour ce que nous cherchions à accomplir. C'est vraiment à l'arrivée de Wayne Shorter que le second Great Quintet va exister.
Bye.
Nous sommes en 1965, dans l'avion qui les emmène à Los Angeles, où le quintet doit enregistrer un nouvel album de studio. Herbie Hancock, tout en discutant avec son ami Wayne Shorter, assis à côté de lui, a griffonné sur une serviette en papier quelques accords et un rythme qui lui avait traversé la tête. Pour être sûr de ne pas les oublier, il range la serviette soigneusement pliée dans sa poche. Mais arrivé à l'hôtel, plus de serviette. Et Herbie a beau se creuser la cervelle, il ne retrouve plus ses notes. Au cours de la séance d'enregistrement pour ESP, ce nouvel album de Miles, ils mettent en boîte 81, que nous venons d'entendre, une composition de Ron Carter, et là, surprise. En écoutant le playback, Herbie découvre à la fin du morceau précisément cette suite d'accords qu'il avait griffonné sur la serviette en papier égaré. Et c'est la genèse de Made in Voyage, ce titre trouvé par Jean, la sœur de Herbie, qui était initialement l'ébauche d'un jingle publicitaire pour un parfum brut de Fabergé et qui deviendra un autre tube.
Thank you.
Le piano de Herbie Hancock entrelacé à la trompette de Freddie Hubbard pour ce maiden voyage à la fois mélancolique et groovy. Herbie était entouré donc de George Coleman au saxophone ténor, de Ron Carter à la basse et de Tony Williams à la batterie. C'était enregistré en 1965, le 17 mars, à Englewood Cliffs. Les tournées de concerts et les enregistrements se succèdent à un rythme accéléré. Sous l'influence conjuguée de Wayne Shorter et de Herbie Hancock, qui contribuent lui aussi au catalogue du groupe, la musique du quintet évolue continuellement. On est loin du bop, les progressions harmoniques en quinte ont été remplacées par des accords en quarte suspendue. Les phrases ne sont pas résolues, il y a Tony Williams pour remplir l'espace de sa polyrythmie ultra puissante et Ron Carter pour appeler le tempo. Herbie, quant à lui, va encore affiner son style, aller vers plus de retenue, plus d'abstraction. Il se souvient de Miles lui disant un jour « Don't play the butter note », autrement dit « enlève le gras ». Alors les années Blue Note ne sont pas terminées pour Herbie Hancock, qui ne quittera le label qu'en 1969, après avoir enregistré un dernier album, The Prisoner, qui va marquer son engagement musical dans la lutte pour les droits civiques. Eh bien, ce sera pour samedi prochain. Merci à Bruno Mourlan à la technique, à Françoise Cordet à la réalisation et à Emmanuel Lacaze pour le site de l'émission où vous pourrez retrouver toutes les références discographiques.
France Musique.
France Musique, il est 19h, le temps de retrouver Jérôme Badini pour une rediffusion des Légendes du Jazz.
À réécouter sur francemusique.fr.